Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 10 ans déjà et qui est donc dans sa 10e saison. 10e saison dont voici le programme du 6e épisode. Un programme qui va ne pas déroger à la règle des précédentes émissions puisque je vais revenir sur l'actualité et les sorties de fin de mois passé et début de mois présent. Et justement, en parlant de cette actualité, ça me permettra de rebondir sur certains visionnages de films que j'ai pu faire tout du long de ce mois. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous en dire. Showtime saison 10 épisode 6, c'est parti. Alors déjà, faudra que vous me disiez, mais j'ai investi un petit peu ce mois-ci et je pense qu'au niveau du son, on s'en sortira mieux. Mais on va découvrir tout cela tout du long de l'émission avec justement l'actu. Une actualité qui a été marquée par le décès. On l'a appris le 20 février, alors que le monsieur est décédé le 13 février, mais est décédé donc le 13 février, Leiji Matsumoto, à l'âge de 85 ans, suite à une insuffisance cardiaque. Le mangaka à l'origine d'œuvres telles que Albator, le corsaire de l'espace, de son nom japonais Harlock, ou encore Galaxy Express, ou encore sa collaboration avec Daft Punk pour Interstellar 5555, 5555, nous a donc quitté. Une pensée à sa famille et ses proches, et salutations au monsieur qui aura marqué plus d'une génération. De ce mois, j'ai pu visionner le film X qui est sorti dans les bacs le 16 février dernier. X est un film de Ty West avec Mia Gott, Jenna Ortega, Brittany Snow et j'en passe. Un film interdit au moins de 16 ans qui se dévoile avec le synopsis que voici. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.
La fille du fermier, prise 1.
Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont.
Il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que t'es faite pour être une star. Les temps durs seront bientôt derrière nous.
Hollywood, on arrive.
On y est. On a notre propre décor maintenant.
Vous cherchez un endroit où rester ?
Oui, monsieur. Il est vraiment affreux, le vieux.
Il y a ma femme qui vit juste à côté. Alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part.
Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai?
J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission.
Ça te plairait de venir à l'intérieur?
Mais avec joie.
Je veux être dans le film.
Tu peux pas? L'histoire peut pas changer comme ça en plein milieu.
Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée.
Ma femme va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe.
Tu vas pas t'en aller tout de suite.
Les yeux vont leur sortir du crâne quand ils vont voir ça.
C'est quoi ça? Est-ce que tout va bien?
Non.
Des garçons a trouvé ça à l'intérieur.
Qu'est-ce que c'est, à ton avis?
Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu.
Je ne vais pas plus m'étaler que cela sur l'avis de ce film, puisque, je vais être franc, je n'ai concrètement pas pris de notes. Je pensais regarder, un divertissement, vraiment regarder un film, me poser tranquillou, mais j'ai été bluffé de A à Z, à tel point que je n'avais qu'une envie, c'est d'en parler. Mais le problème, c'est que il s'est passé tellement de choses dans ce film que je ne savais vraiment pas quel bout prendre les choses pour pouvoir justement bien en parler. Au niveau des thématiques, c'est dingue, enfin. Au début, on s'attend à voir un film qui rend hommage justement au cinéma d'horreur des années 70. On pense notamment au film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Mais en plus de cela, mais les thématiques, tout le jeu des acteurs, c'est kitsch à souhait. C'est à tel point que la recette marche. Et bon, au niveau des thématiques, on peut aussi parler du rapport de la femme par rapport à l'âge, au vieillissement de son corps. Au poids de l'âge des années sur le corps d'une femme. Et aussi, il y a une notion de sexualité lorsque l'on est âgé. Il y a vraiment, je recommande. Un film tout de même à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que bon, il porte bien son nom, et encore une fois, il est interdit au moins de 16 ans, parce qu'il est quelque peu coquinou, ce qui n'est pas pour me déplaire, vous me connaissez un petit peu. On retourne un petit peu en arrière parce que oui, le 14 février est sorti sur Netflix le film Remember. Remember, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans Showtime, notamment parce qu'il en est sorti un roman de l'auteur Wellsard aux éditions Lumen. Et il est également sorti un manga en 17 tomes de toujours Wellsard au scénario et Kaizutoshi Murase au dessin, aux éditions Ki-Hoon. Et oui, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans les suggestions, ça je vous l'ai déjà dit. Mais qu'est-ce qui nous attend du coup avec le film de Eiichiro Asumi, réalisateur de Assassination Classroom, dont je vous ai déjà parlé dans la vie, dans des émissions passées de Showtime. Du coup, ce réalisateur adapte donc l'œuvre de Wellsard, la première chasse, le premier grand arc scénaristique des mangas et, en soi, le roman. Un film qui se dévoile avec le synopsis que voici. 6 lycéens coincés dans une boucle temporelle meurtrière doivent retrouver les restes dispersés d'une victime inconnue pour lever la malédiction et espérer survivre. Tout un synopsis pour un film dont je vous passe le casting parce que c'est principalement des acteurs japonais et je pense qu'il y en ait qui sortent du lot. Ce casting, je l'ai découvert avec le film. Et justement, on va commencer à parler, à pointer du doigt certains défauts du film parce que le casting, on en parle, c'est des japonais, ok? Le cliché des japonais, dont qui se ressemblent tous, voilà. J'ai dit, c'est un petit peu difficile, on va pas se cacher des fois de différencier un japonais d'un autre japonais, ou d'une autre japonaise, mais une japonaise d'une autre japonaise, mais là, c'est un film quand même, hein. Il faut réussir à s'intéresser au personnage, à s'attacher au personnage, du coup, comment on fait si on n'arrive pas à les différencier? Première grosse question. Qui, justement, enlève l'impact émotionnel qu'on pourrait avoir en s'attachant avec les personnages, par exemple? Après, l'histoire en elle-même, je vais pas m'étaler de plus, ça va être un petit avis, mais oh là là, mais comment vous avez adapté ce truc? J'ai jamais vu une histoire aussi ridicule. Ils vont faire leur chasse au corps, c'est-à-dire qu'ils vont être pris dans une boucle temporelle jusqu'à ce qu'ils arrivent à retrouver les différents membres du corps qu'ils doivent reconstituer. Le problème, c'est que les scénaristes se sont assis littéralement sur le roman de Wellsard, c'est-à-dire que il n'y a pas de règles. On oublie totalement la sensation de peur face à la rouge sang qui l'entité qui les poursuit lors de la chasse au corps le soir dans l'établissement scolaire. Ben on oublie justement la rouge sang, ce sentiment de peur qui arrivait en chantonnant dans le manga. Il y a plein de choses qui vont pas et moi autant. Je l'ai regardé avec une autre personne, le film. L'autre personne a su apprécier parce qu'elle était détachée un petit peu de tout l'univers de base. Mais moi, oh là là, j'avais envie de... Ça a été dur de se contenir, de ne pas s'énerver. Après, il y a des petits trucs intéressants, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, j'allais dire peut-être que le final peut jouer, mais finalement, mais non. Bref, est-ce que vous avez vu ce film? Moi, je serais curieux d'en avoir vos avis, et justement, si vous l'avez vu et que vous l'avez apprécié, on peut venir en discuter si vous le désirez. Pour cela, n'hésitez pas à m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroy, O-N-E-I-R-O-I, .studio au pluriel, @outlook.com. Le 3 mars, nous avons appris qu'un nouveau jeu vidéo allait être adapté en film. Le jeu n'est autre que Dead by Daylight. Oui, Dead by Daylight va être adapté au cinéma par le studio Blumhouse, même si les créateurs de la licence horrifique vidéoludique Behavior Interactive sont impliqués dans le projet. Dead by Daylight, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est un jeu vidéo où on joue 4 survivants qui sont pourchassés par un tueur incarné par un autre joueur. Notre objectif sera donc de réparer 4 générateurs afin de pouvoir ouvrir une porte qui nous permettra de nous enfuir. Bien entendu, ce film, je pense qu'il va permettre justement d'explorer un petit peu le lore, l'univers, l'imaginaire de Dead by Daylight en nous donnant quelques petites... explication notamment au sujet de l'entité, une entité un petit peu cauchemardesque qui anime un petit peu tous ces tueurs qui cherchent justement à nourrir cette entité en récupérant les 4 survivants et en les pendant à des crochets. Bref, moi je suis vraiment curieux, en sachant que c'est Blumhouse, je suis un petit peu confiant. En sachant qu'il y a aussi Atomic Monster, l'entreprise du réalisateur de James Wan, qui est sur le projet. Je pense que si c'est bien fait, il y a moyen de développer une petite franchise horrifique au cinéma qui va permettre d'enrichir le lore, justement l'univers de Dead by Daylight, si justement les franchises vidéoludiques et cinématographiques sont liées. Réponse, je ne sais pas quand, mais au fur et à mesure de l'avancée du projet, je ne manquerai pas de vous en parler. Le 6 mars, lors du Dragon Ball Games Battle Hour, a été... à la surprise générale, révéler le futur Dragon Ball Z Tenkaichi. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, c'est une série de jeux vidéo de combat qui ont fait les belles heures de la PlayStation 2, de la station de jeu numéro 2, de 2005 à 2007 avec 3 titres. Gagé d'espérer que ce gameplay dynamique qui a fait le succès de ces jeux sera au rendez-vous de ce nouvel opus. Le 8 mars, devait sortir dans les salles obscures, dans toutes les salles obscures françaises, le film Scream 6 de Matt Bettinelli Olpin et Tyler Gillett. Excusez-moi, j'ai quelques petits soucis de vision, du coup, il faut que je m'approche de mon écran pour lire mes notes. Ce film qui devait sortir dans toutes les salles obscures françaises n'est pas sorti dans les cinémas de Millau pour une raison un petit peu obscure. Et justement, il y a quelques jours, face au un bon gros succès au niveau des entrées en salle, un des plus gros démarrages pour la franchise, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, la Paramount a donné le feu vert, son accord, pour un Scream 7 qui serait déjà prévu pour 2024. De fait, le tournage serait très prochainement sur le départ, va très prochainement commencer. C'est pour ça que ça va permettre justement cette sortie assez rapprochée. Après, il faut faire attention tout de même, espérer qu'on ne tombe pas dans une franchise qui se perd. Je n'ai pas pu voir du coup Scream 6 et je suis curieux de découvrir son histoire et de voir justement si ça peut appeler un Scream 7. Du coup, si ça peut le permettre, pourquoi pas, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même réussir à s'arrêter et ne pas aller et ne pas en abuser, comme certaines franchises cinématographiques dont je tairai le nom. Le 8 mars, toujours, nous avons appris qu'un personnage apprécié des fans de l'univers Marvel qui avait été développé par Netflix reviendrait dans une des séries de Disney Peluche, à savoir Daredevil Born Again. Donc, dans cette série, nous retrouverons le Punisher de John Baird. Baird comment ? Comment il s'appelle déjà ? Il a un nom compliqué cet acteur. John Baird. John Baird. John Bernthal de John Bernthal. Je crois que j'y suis arrivé. Ça a été compliqué. Si nous allons retrouver le Punisher, ça ne sera pas le cas des personnages de Deborah Ann Wolfe et de Eldon Henson, qui incarnaient respectivement Karen et Foggy, deux comparses de Matt Murdock, qui eux risquent très bien d'être recastés. Affaire à suivre donc pour cette série qui est attendue pour le printemps 2024 sur Disney Peluche. Le 8 mars, toujours! Mais c'est qui s'en est passé ce jour-là? Eh bien, il y a Sam Raimi qui a envoyé une petite bombe dans l'univers horrifique en disant que Drag Me to Hell 2 jusqu'en Enfer 2 pourrait arriver! Jusqu'en Enfer, c'est un film qui était sorti le 27 mai 2009 dans les salles obscures. Un film de Sam Raimi qui revenait à l'horreur après avoir piloté 3 longs métrages autour de l'araignée de Marvel, Spider-Man. Jusqu'en Enfer, c'était donc un film interdit aux moins de 12 ans qui se présentait avec le synopsis que voici. Christine Brown, spécialiste en crédit immobilier, vit à Los Angeles avec son petit ami, le professeur Clay Dalton. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où la mystérieuse Madame Ganouche débarque à la banque et la supplie de lui accorder un crédit supplémentaire pour sa maison. Christine hésite entre la compassion et la pression de son patron, Mr. X, qui la voudrait plus ferme avant de lui octroyer une promotion. Fatalement, Christine choisit sa carrière, même si sa décision met Madame Ganouche à la rue. Pour se venger, la vieille femme jette la malédiction du Lamia sur Christine, transformant sa vie en un véritable cauchemar. Hantée par un esprit malfaisant, incomprise de son petit ami, elle se fait aider du médium Ramjas, qui l'entraîne dans une course frénétique contre la montre. C'est un peu le cas, parce qu'elle a que 3 jours. Qui l'entraîne dans une course frénétique contre la damnation éternelle pour inverser le sort. Un film qui faisait du bien et qui surprenait de par sa fin. Et justement, Sam Raimi nous dit que les producteurs de Ghost House Pictures, ils essayent de créer une histoire. Et si ça arrive, il pourrait bien y avoir le feu vert pour justement ce Drag Me to Hell 2, 14 ans après la sortie de l'opus initial. On retourne un petit peu en arrière à la date du 7 mars, car je tenais à vous présenter la bande-annonce du film The House. Une bande-annonce que vous pouvez écouter tout de suite.
In this house. In this house. In this house. In this house.
The House, donc, est un film attendu pour le 24 mai 2023. C'est un film de Kyle Edward Bell qui se dévoile avec le synopsis que voici. Deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu. Franchement, ça paraît pas. Ce synopsis-là, il permet justement de rentrer encore plus dans cette bande-annonce atypique qui, au niveau de l'audio, je sais pas, mais de suite, il y a une petite ambiance et j'avoue que ça rend curieux. Ça rend curieux de découvrir ce film qui durera 1h40. Quand sera-t-il ? Pour ça, bah, il faut espérer qu'il sorte par chez nous. Le 9 mars a eu lieu le Capcom Spotlight, un événement qui a permis à l'éditeur de jeux vidéo Capcom de dévoiler certaines de ses sorties à venir. Ça a permis justement de revenir sur le Resident Evil 4 Remake qui est attendu pour le 24 mars prochain. Et justement, à l'occasion de cet événement, Capcom a annoncé la sortie d'une démo pour ce jeu vidéo. Cette démonstration dure à peu près une vingtaine de minutes et nous permet justement de prendre les commandes de Léon dans les premières minutes, très certainement, du jeu attendu. J'ai pu m'y essayer dans la soirée, dans la foulée, et même si le RE Engine, le moteur graphique du jeu, fait toujours des merveilles, que le gameplay est quand même un petit peu plus dynamique de par le fait qu'on puisse bouger en tirant, ce qui n'était pas le cas du l'opus initial, eh bien, moi, je suis un petit peu sceptique de certains aspects, notamment au niveau de l'introduction que j'ai trouvé assez sombre. On est dans un univers assez sombre, noir, avec un peu de gore, de sang, de glauque. Mais est-ce qu'il y en avait vraiment l'utilité là où, justement, le premier... Ben, le Resident Evil 4 d'origine nous présentait un univers ben, un petit peu automnal, avec un brouillard un petit peu, une forêt un peu terne, une rencontre justement avec le premier Ganados, le premier villageois, le premier opposant du titre, qui était un peu plus marquante à mon goût, puisque rapidement on se retrouvait ben, justement dans cette forêt où on pouvait se sentir comme isolé, observer, et ici je n'ai pas retrouvé ce sentiment. Après, ce n'est qu'une démonstration, et gage est d'espérer que la suite saura bien me happer, parce que oui, je compte essayer de me le procurer. Après, je suis curieux de découvrir s'il y aura d'autres éléments un petit peu plus cinématographiques, comment dire, au niveau de la réalisation du jeu, parce que par exemple, il y avait un plan sur la fin de cette séquence. Normalement, lorsque les villageois abandonne Léon seul dans le village, il y avait un plan grue qui montrait ben justement un Léon, un tout petit point de Léon isolé dans ce village vidé de toute vie. Et alors qu'ici, c'est un plan qui recule, qui monte Léon seul avec un petit feu. Ben, bref, je trouve que ça perdait de son impact et je suis curieux de savoir s'il y aura d'autres changements de ce style, car même avec un remake, parfois, c'est délicat, voire difficile de changer certaines choses. Affaire à suivre. Le 9 mars toujours a eu lieu la cérémonie des Pégases 2023. Qu'est-ce donc que les Pégases ? C'est une cérémonie française qui récompense les meilleurs jeux vidéo de l'année français, s'il vous plaît. Car oui, la France a tout de même un pied dans cette industrie, une industrie qui est trop injustement, à tort parfois, décriée. Car oui, ce n'est pas un jeu vidéo où l'on incarne un petit chat qui va nous pousser à commettre les pires atrocités. Et justement, le jeu vidéo Stray a été élu meilleur jeu vidéo pour les Pégases 2023. Il a été également récompensé comme le meilleur jeu vidéo indépendant. Et je vous passe les autres jeux vidéo qui ont pu être récompensés tout du long de cette soirée que l'on peut identifier comme les Césars du jeu vidéo. Car oui, il y en a eu. Il y a eu encore du Stray, du A Plague Tale Requiem et du jeu vidéo étranger avec Elden Ring, meilleur jeu vidéo étranger. Bref, toute une cérémonie qui fait plaisir et qui fait du bien à cette industrie. Le 9 mars est sortie la seconde partie de la saison 4 de You. Je pense vous en proposer prochainement un petit avis un petit peu plus développé. Mais comme le temps file, le temps passe, je ne pense pas pouvoir tout de suite vous en parler. Le 10 mars donc, on apprenait justement que un feu vert avait été donné à Scream 7 comme j'ai pu vous l'exposer. Et le 11 mars, alors celle-là, j'étais pas préparé. Mais le 11 mars, nous avons appris que TF1 travaille à l'adaptation de Cat Size en série live action. Je sais pas quoi dire. On a eu de la chance hein, avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud qui a été une très bonne surprise. Mais là, il n'y a rien qui marche dans cette phrase. On va peut-être être surpris, mais je suis un peu sceptique, hein. Ça va tourner ici tout commence ou demain nous appartient toute cette histoire. Et pour clôturer cette émission, je tenais à vous partager en avant-première la captation sonore de mon avis sur le film Glitch de Hugo Koenig, un film qui est attendu pour sortir courant de cette année. Je vous laisse donc avec cet avis. En avant-première, parce que j'ai eu un petit souci de montage vidéo, du coup la vidéo n'est pas encore sortie sur ma chaîne YouTube du Chafouineur. Du coup c'est vraiment une avant-première pour Radio Larzac. Et justement, je ferai les remerciements après, mais déjà merci Radio Larzac pour le pied dans le monde de la radio qui m'a amené justement à évoluer ainsi et à voir, dans un sens un petit peu, cette chance, dans un sens, de rencontrer Hugo Koenig virtuellement, et justement de voir ce film. Donc pour vous, Glitch. Aujourd'hui, nous allons parler du film Glitch de Hugo Koenig. Hugo Koenig, que je tenais à remercier de m'avoir permis de visionner son long métrage, son dernier long métrage, après la critique que j'avais fait, notamment du film Night Shot, disponible un petit peu partout actuellement sur les plateformes de VOD et SVOD. Je vous en remets la critique ici. Mais oui, Glitch, qu'est-ce donc que ce film Found Footage sous fond de drame et de surnaturel? Un film qui se présente avec le synopsis que voici. Une équipe de tournage part en aventure afin de faire un reportage sur le tourisme extrême. Au choix, visite de Tchernobyl, hôpitaux abandonnés, asile désaffecté. Eux, ils ont choisi la forêt hantée, classique, mais qui marche toujours. Est-elle vraiment hantée ? Armés de leurs caméras et prêts pour l'aventure, ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont y découvrir.
James in black and white, pieces of my heart, but who cares? One step on the ground, I'm leaving behind my burdens. Pictures in my head, nothing really changed, it's timeless. It feels like...
Un synopsis pour un film qui va nous faire suivre les personnages de Louis, Fred, Fredo, Claire et Lila. Une équipe qui va donc se rendre pendant la première demi-heure du film sur leur lieu de tournage, une forêt hantée, la forêt des sans-âmes. Après cette route quelque peu semée d'embûches, ils vont faire la rencontre le lendemain matin de Monica, leur guide, qui va les guider tout du long de leur expédition. Cependant, plus ils vont s'enfoncer au cœur de la forêt des sans-âmes, plus les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et ça, je vous laisse le découvrir, je préfère ne pas vous en dire plus pour que vous ayez un maximum de surprises lors du visionnage de ce film. Je vais maintenant vous parler du long métrage en lui-même, en évoquant un petit peu quelques aspects de son histoire, ce que j'en ai retenu, et certains éléments qui m'ont un petit peu déconvenu. Rapidement, moi, c'est une histoire qui a fait mouche, qui a très bien marché, qui n'est pas sans faire penser justement à nombre de found footage. Et justement, là où le bas blesse, c'est que l'on se retrouve à nouveau face à un found footage. Moi, vous, comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, c'est un genre que je sais apprécier, mais aussi que je sais désapprécier, parce que justement, on en a fait des tonnes et des caisses du genre du found footage. Ici, au moins, Hugo Koenig arrive à nous transporter dans un long métrage qui est, je ne vais pas dire du non-stop, mais qui arrive à nous tenir en haleine. Qui arrive à nous tenir en haleine malgré certaines baisses par moment dans son récit. Quelque chose qui a été un petit peu modifié dans sa dernière version.
Car oui,
j'ai pu visionner deux versions du film. Une certaine version et la version finalisée. La version finalisée qui corrige certains éléments de la précédente version que j'ai pu visionner. Ça peut se changer au niveau du rythme musical, du rythme notamment du récit. Et ça permet d'endiguer justement ces petits creux qu'il pouvait y avoir par moment tout du long du récit. Et justement, le récit, parlons-en, mais il est superbement bien porté par ces différents personnages et interprètes. On est face à un film français qui dit film français peut des fois inquiéter, surtout au niveau de l'interprétation du jeu, du surjeu, ce genre de choses. Ici, au moins, les acteurs, ils font mouche, ils sont agréables, ils sont appréciables et on prend plaisir à les suivre. Il y a même par moments certaines notes de jeu qui font très naturel et c'est justement quelque chose que j'ai su apprécier tout du long du film. Je souligne notamment les personnages de Louise et Monica qui sont superbement bien interprétés par leurs différents interprètes, mais on peut également saluer les personnages de Fred, Claire et Lila, qui ne sont pas en reste, mais ça je vous laisse le découvrir. Leur interprétation fait partie à part entière du film. Pour ce qui est de l'image, des éléments sont bien amenés ici et là, et le film porte très bien son titre. En introduction, il nous est défini justement ce qu'est un found footage et un glitch, ce qui nous permet justement de comprendre ce qui va nous attendre visuellement parlant. Ces glitches sont disséminés par-ci, par-là, et joue justement sur l'angoisse à part entière du film. Une angoisse qui est très bien amenée parce que Hugo Koenig, comme dans Night Shot, arrive à donner, vie à... aux endroits qu'il filme, la musique sait se faire discrète, voire ne pas être là, et vraiment, on n'est pas serein dans cette forêt, dans cette bâtisse, j'en dis pas plus, mais les différents lieux du film ont une vie et sont des personnages également à l'écran. La musique, justement, parlons-en, mais elle rythme très bien le film lorsqu'elle est présente. Et justement, certains moments sont ponctués par des musiques un petit peu plus punchy. Je pense notamment sur la fin, qui justement, visuellement, nous détache un petit peu du principe du found footage, puisque c'est plus vraiment quelqu'un qui tient la caméra. C'est vraiment... filmé de manière plus classique, mais justement, grâce à la musique et grâce à ce procédé cinématographique, ça apporte du rythme et ça nous permet justement d'être bluffé par le final qui nous attend. Avec toutes ces louanges, je ne vais pas vous spoiler plus longtemps mon avis final sur le film, un film de Hugo Koenig, Glitch, que j'ai plus qu'apprécié. Bon, il n'est pas sans défaut, notamment cet aspect un petit peu de creux au niveau du scénario, du rythme qui arrive par moment, mais qui ont été tout de même corrigés grâce à la version finale du film. Un film donc qui est promis pour sortir cette année 2023, un found footage français, Cocorico, saluons-le, un film donc indépendant et justement qui permet cette liberté de ton, une liberté de ton que nous ne retrouvons pas malheureusement dans certaines des productions françaises actuelles et même dans ce genre de cinéma à la française, puisque oui, on ne doit pas se cacher que les films d'horreur français, on peut, et de qualité, on peut les compter sur les doigts d'une main. Un second essai réussi pour Hugo Koenig, dont je serai surpris, dont j'ai hâte notamment de découvrir la suite de son aventure cinématographique. Je suis curieux de pouvoir découvrir ce qu'il nous réserve à l'avenir et je suis curieux de découvrir par quel biais nous allons pouvoir découvrir justement ce Glitch. Voilà, c'était mon avis sur Glitch. Encore une fois, merci Radio Larzac pour tout ce que vous faites et pour m'avoir accompagné encore et toujours. Et voilà, hein, sans vous, sans un pied dans le monde de la radio... Ben, je pense pas que j'aurais fait ma chaîne YouTube, etc., etc. Donc, merci Radio Larzac, et merci Hugo Koenig pour m'avoir permis de voir ce film.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Deep in the night, I'm looking for some fun. la.
Et comme le temps passe et défile, je pense pas trop plus m'étaler que cela. Même au niveau des sorties ciné, purée, il y a un film que je voulais voir la semaine prochaine là, qui sortait, du moins qui sort le 15 mars, donc qui est normalement peut-être déjà sorti ou pas, hein, par chez nous. Crazy Beer, oh, le film qui reprend l'histoire de l'ours qui est. Sur qui il est tombé de la cocaïne et qui devient une sorte de tueur. Et voilà, bon, je m'étale pas plus que cela, mais je pense qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. Je vous renvoie encore et toujours sur Booknode, hein, si vous êtes féru de lecture et que vous voulez découvrir les sorties du mois au niveau littéraire. Et ceci étant dit, ben, moi, je n'ai pas plus à vous dire. Cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'au niveau du son, ça aura été beaucoup mieux. J'ai pas trop plus à vous dire. Un peu compliqué pour moi de l'enregistrer, trop de choses à dire, mais je suis un passionné, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous avez quoi que ce soit à dire justement sur l'émission, n'hésitez pas à m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroi.studio au pluriel @outlook.com. Tout avis est bon à prendre et justement en échangeant, ça peut permettre justement de se rencontrer et de discuter passion. Merci à Radio Larzac justement de continuer à soutenir cette passion et justement merci à vous, surtout merci à vous auditeurs pour continuer de m'écouter. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc au mois prochain.